Lundi le 12 avril 2021, bienvenue à En Zone Neutre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau week-end, j'espère que vous avez regardé le Masters, parce qu'on parle du Masters dans quelques instants. J'ai bien hâte de vous jaser de ça, votre expérience de la fin de semaine. Yeah! Commencer la journée avec du Green Day, pourquoi pas, tabarouette, c'est-tu bon ça? J'avais le goût de mettre un peu de musique dans ce show-là. Je l'ai dit d'entrée de jeu, bienvenue en Zone Neutre. Mon nom, Simon Lavergne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Il a fait beau, on a été dehors, joué au golf, on est allé au parc avec les enfants. Maudit que c'est le fun quand il fait chaud, puis c'est exceptionnel là, pour le début du mois d'avril comme ça. Le terrain de golf où est-ce que je suis membre, au club de golf à Auberge et club de golf Héritage à Notre-Dame-de-la-Paix, dans la petite nation en Outaouais. Si vous ne connaissez pas la place, venez faire un tour, venez golfer, amis golfeurs, venez faire un tour ici. C'est tellement beau, le terrain déjà ça accroche, les greens sont beaux. C'est un terrain qui est aménagé directement dans la nature, donc beaucoup de c'est une vallée là, tu sais, avec beaucoup de bois, beaucoup de paysages super naturel, ce qui fait qu'il y a encore un peu de neige dans le bois, tu sais, puis les chemins sont pas mal boiteux, mais sinon le terrain il est sa coche pour vrai là. Les terrains de golf cet été vont être super beaux. Si on regarde juste l'achalandage depuis une semaine, ça fait à peu près une semaine que des terrains sont ouverts, puis il y a du monde à profusion. Donc, c'est de bon augure pour l'été, en espérant qu'on puisse continuer à pratiquer notre sport préféré d'été. Donc, en espérant que les mesures sanitaires ne viennent pas casser le party, comme on dit, mais... Je dis mesures sanitaires, mais en fait, je dis plus la COVID comme telle. Les mesures sanitaires sont là à cause de la COVID. Donc voilà. Mais c'est ça. Passe un super beau week-end. J'ai joué une ronde de golf coup-ci, coup-ça vendredi. J'étais en congé. Je suis allé jouer avec mon frère, des amis et mon fils. Mon fils aussi qui était là samedi avec moi. On a joué. C'était vraiment cool. Pour vrai, mon gars il a 13 ans, puis il frappe la balle. Pas pire solide. Je suis vraiment fier de lui. On a acheté les bâtons de golf à son oncle, à mon frère, qui lui a changé. Puis Zach, mon fils, est rendu avec des bâtons pour adultes. Là. Il a grandi, ça n'a pas de sens. Puis il y avait son set de golf junior qui était rendu ben trop petit. Puis là, on a pogné des bâtons, des vrais bâtons, là, t'sais, bâtons pour adultes, des bons vieux bâtons faits sur mesure, ping en plus. Fait que là, il a commencé à frapper, puis t'sais, le driver, ça change tout, là. Je veux dire, quand tu commences à driver avec un driver de qualité, là, fait que lui, il a l'ancien driver à mon frère, un burner de TaylorMade. Donc là, il a commencé à frapper des balles, des drives à ben 170-175 verges, qui est assez bon là, pour son âge. Puis, il est impressionnant. Il a fait son premier birdie au 11e trou, petit par 3. Il a envoyé ça sur green, puis il l'a poté direct dedans en deux. Fait que moi aussi, j'ai fait un birdie sur ce trou-là, mais je me suis fait éclipser par la performance de mon gars, parce qu'en réalité, personne n'a félicité mon birdie, alors que tout le monde est capoté sur le birdie de mon fils. Fait que il va falloir que je me fasse à la coutume, il va falloir que je me fasse à cette idée-là qu'un moment donné, mon fils va me remplacer d'un foursome avec mes chums. quand je serai pas là ou pas disponible, ils vont demander à mon gars pour aller jouer. Puis c'est bien correct, ça me fait tellement plaisir de le voir s'amuser sur un terrain de golf. Mon fils qui pratique des sports peu orthodoxes, disons, pour un enfant de son âge, là, tu sais, il a 13 ans, puis bon, il joue au golf l'été beaucoup, et l'hiver, c'est ski alpin. Fait que ski alpin, ça va, là, tu sais, mais il fait pas beaucoup de sports d'équipe. Moi, quand j'étais jeune, j'étais toujours en gang, là, c'était baseball, oui, il jouait au golf, mais tu sais, c'était surtout le baseball, le hockey. des sports un petit peu plus d'équipe, où ce que tu es entouré de ben du monde. Lui, plus solitaire un peu, il aime bien ça. Il aime bien ça jouer sa ronde de golf. Puis il aime aussi, tu sais, compter ses coups, puis jouer sa propre balle. Donc des affaires de deux balles, meilleure balle, il aime pas ça tant que ça. Il aime mieux jouer sa game, quitte à faire 9-10 coups sur un trou. Il aime mieux jouer sa balle, puis c'est bien cool. Comme ça, il peut s'améliorer de fois en fois, tu sais. Au moins, il calcule son vrai score, son score réel. Puis, ben, à chaque game, il essaye d'améliorer son score. Donc, c'est tout à son honneur. En fin de semaine, ben là, c'est ça. C'était le Masters. J'espère que vous avez suivi ça, parce que, bon, c'était la consécration pour la première fois de l'histoire d'un golfeur japonais, Hideki Matsuyama. Hideki Matsuyama, c'est il y a un historique avec le Masters. La première année qu'il a disputé ce tournoi-là, il était amateur en 2011. Donc, ça fait 10 ans. Et il avait fini le meilleur amateur. Donc, les meilleurs amateurs au Masters sont récompensés. Là. Ils gagnent pas un veston vert, là, mais ils gagnent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils gagnent, en fait. J'en ai aucune idée, mais ils sont récompensés quand même. Ils sont classés comme étant le meilleur amateur au monde là, quand ils performent bien à Augusta en Géorgie, puis au Augusta National. Et là, c'est ça. Lui, il y a 10 ans, avait à son premier tournoi, avait été classé meilleur amateur. Puis 10 ans après, ben, il remporte le Masters, le tournoi officiel, le Green Jacket, le fameux veston vert qui est si populaire dans le monde du golf. Reconnu ou connu à travers le monde aussi. Donc, c'était vraiment une belle histoire dans son cas. Et il a survolé la troisième ronde samedi, ce qui a donné, si ma mémoire est bonne, il y avait cinq coups d'avance au départ de la quatrième ronde, la dernière ronde, la ronde finale. Et une chance qu'il y avait cette avance-là, parce que au Masters, qu'est-ce qui arrive, c'est que, pour donner un petit peu d'historique, au Masters, la dernière ronde, entre autres le deuxième neuf, les fanions sont vraiment attaquables. Donc, oui, le terrain demeure aussi difficile. Par contre, les positions de drapeau favorisent, par exemple, les Eagles sur les par 5. Et ça donne un break, autrement dit, pour les golfeurs sur les par 4 aussi. Donc, possibilité de birdie et tout. Ça, c'est pour ceux qui pourchassent le meneur. Parce que pour le meneur, ça devient un stress particulier, parce que justement, tu sais que même si tu as une avance de 4 coups à un certain moment donné, les autres golfeurs peuvent arriver puis faire un eagle, deux birdies, puis là, whoops, t'es plus tout seul en tête. Là. Puis ça change beaucoup, beaucoup. Puis t'es pas à l'abri d'un bogey ou d'un double bogey. Ce qui est arrivé à Matsuyama justement hier. Je crois que c'est au 15e trou. 15e trou, Matsuyama envoie sa balle à l'eau. Puis à ce moment-là, Xander Schauffele, qui jouait avec lui en plus, était sur une streak de 4 birdies de suite. Fait que là, il pourchassait. Il n'arrivait pas nécessairement à combler l'écart, parce que Schauffele a commencé la journée avec une bonne, une bonne marge. Là. Il y avait beaucoup de chemin à parcourir pour se rendre là. Et, Matsuyama qui va d'un bogey sur ce trou-là et qui, la marge, l'avance diminue à vue d'œil puis tout ça. Puis, Matsuyama, sans être chanceux, parce que, bon, tout le monde joue le même terrain, puis, bon, si tu fais un birdie, tant mieux pour toi. Si tu fais un bogey, ben c'est toi contre le terrain, là, tu sais. Donc, il n'est pas chanceux parce qu'il a joué son score, puis c'est comme ça que ça fonctionne le golf. Mais le trou d'après, Schauffele fait un double bogey, descend à moins 7 à ce moment-là. Matsuyama qui était à moins 12. Donc, à partir de là, son plus proche poursuivant ne jouait plus avec lui. Donc, ça ne peut plus jouer vraiment dans la tête. Là. Quand le gars qui joue avec toi vient d'enligner 4 birdies de suite, mettons que tu y penses en tabarouette de pas t'accrocher, mettons. Donc là, avec Schauffele qui venait d'enligner, de scraper un trou, autrement dit, au 16e, ben là, Matsuyama avait un petit peu plus l'état d'esprit de gagnant. Là, je pense qu'il devait serrer son bâton peut-être un petit peu moins. Puis Puis heureusement, parce qu'en bout de ligne, tu vois, Matsuyama, il a terminé à moins 11, puis son plus proche poursuivant, qui est l'Américain Zalatoris, qui en était à sa première édition du Masters, a terminé la journée à moins 10. Donc, Matsuyama a gagné par un coup, alors qu'au départ de la quatrième ronde, il y en avait 5 d'avance, ou peut-être même 6, je me souviens plus exactement le score. Donc, c'est ça qui est le Masters. Le Masters, le dimanche, j'ai l'impression de toujours revoir les mêmes images. Toujours, année après année, c'est toujours la même chose qui se déroule. Si un golfeur a une certaine avance, cette avance-là, dans les derniers trous, il peut y avoir des bogeys, des doubles bogeys, puis tout ça. Puis ce qui fait que, bon, jusqu'à la fin, même si au départ de la quatrième ronde, là, avec l'avance que Matsuyama avait, tu te dis, bon, ben, il va gagner, puis c'est tout, puis je regarderai les highlights, mais non, c'est ça qui est le fun avec le Masters, c'est que tout qu'est-ce qui se passe sur le terrain est intéressant. Tout qu'est-ce qui. Tu sais, les chances de birdie d'un côté, puis hey, c'est-tu dur à poter comme green, ça, au Masters, il y a qu'un peu. mettons que faut que tu ailles ton putter très très en forme pour gagner le Masters, ça c'est le moins qu'on puisse dire, puis ton driver, parce que les coups de départ, là, l'allée est étroite en tabarouette, puis ces gars-là c'est des machines, parce que à la télévision c'est probablement ça paraît probablement plus large que ce l'est réellement en plus. Donc, c'est des vraies machines, ces gars-là, pour réussir à mettre la balle dans le fairway, là, puis et à pas trop être dans le trouble. D'ailleurs, quand tu es dans le trouble à Augusta, ben t'es dans les pines de pin. C'est pas les lies, les surfaces les plus intéressantes à frapper. Puis étant donné que la balle, elle arrête jamais sur green quasiment, là, les greens sont tellement rapides, c'est que quand t'es pris sur une surface un peu plus problématique, si on veut, c'est la rotation sur la balle qui est affectée, puis là, ta balle, elle n'arrête plus sur green. Fait que on a vu quelques golfeurs qui se sont retrouvés à frapper leur coup, qui a atterri sur le verre, mais qui a fini par rouler en dehors. Donc, c'est arrivé à quelques occasions. Mais félicitations, Hideki Matsuyama. Puis, j'écoutais le broadcast canadien sur TSN, puis il s'amusait à passer des extraits du broadcast de Tokyo au Japon. Parce que Matsuyama, bon, était en voie de devenir le premier Japonais à remporter ce tournoi-là. Puis le golf est hyper populaire au Japon. Je sais pas en ordre d'importance si c'est le sport national ou j'en doute, là, parce que c'est probablement pas le sport national, mais c'est vraiment un des sports les plus suivis au Japon. C'est un des sports les plus populaires. Les jeunes golfeurs, Tiger Woods est hyper, hyper populaire au Japon. Les jeunes golfeurs veulent porter du Nike, ils veulent ressembler à Tiger Woods. En tout cas, c'était comme ça. Puis là, cette génération-là qui ont commencé à suivre le golf avec Tiger, justement, quand Tiger était dans son prime, ben cette génération-là arrive sur la PGA, ou bon, sont déjà arrivés, mais il y a plusieurs golfeurs, justement, qui sont influencés par ça. Puis fait que là, ils passaient des extraits de l'équipe de radiodiffusion du Japon. Et quand Matsuyama a envoyé sa balle à l'eau, c'est comme si, je ne sais pas comment l'expliquer en métaphore, mais c'est comme si c'était terminé, là, alors qu'il y avait encore 4 coups d'avance à ce moment-là. Donc c'était pas une catastrophe, mais en tout cas. Donc, c'était super cool de voir ça, la fierté, justement, des descripteurs japonais. Puis, quand il a reçu son veston vert, je suis pas mal sûr que ça l'a explosé dans leur studio. Mais c'est cool. L'autre affaire, c'est que ce que je trouve super drôle au Masters, puis c'est pas si drôle que ça, mais c'est parce que j'ai transposé ça dans d'autres sports, t'sais. Au Masters, le gagnant reçoit une copie miniature du chalet du Augusta National. Donc, le gros chalet blanc là, qui est super populaire, là, qu'on voit souvent dans les images d'archives, où est-ce qu'il y a une espèce de grosse entrée, là, où est-ce que, bon, les, les golfeurs arrivent, mais c'est comme une grande allée, puis tout ça, donc c'est hyper populaire. Puis ce qui fait la beauté du Augusta National, c'est surtout le visuel, tu sais. C'est les fleurs, c'est Amen Corner, où est-ce que, bon, c'est reculé un petit peu dans le fond du terrain, c'est super tranquille. Donc, quand les joueurs ça, arrivent dans cette portion du terrain-là, on n'entend pas tant la foule, on entend surtout les oiseaux. Donc, visuellement, c'est très beau, c'est très classique là, comme terrain de golf et tout. Et donc le chalet du Augusta National fait partie de l'histoire ou de toute cette enveloppe visuelle-là. Et le gagnant reçoit justement une copie miniature. Là. C'est comme le trophée, si on veut, du tournoi. C'est le chalet. T'sais. Puis là, j'ai commencé à penser qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air dans les autres sports. T'sais. Par exemple, si le Canadien gagnait la Coupe Stanley cette année, est-ce que on verrait ça, est-ce qu'on trouverait ça drôle de les voir recevoir un Centre Bell miniature, toute la gang, t'sais, la Coupe Stanley, mais comme souvenir à la gang, vous avez une copie du Centre Bell au moment où vous avez joué vous avez joué la finale, t'sais. Fait que c'était un petit peu drôle de voir ça, t'sais. Au même titre que des fois, on comprend pas comment ça se fait qu'au tennis, ils reçoivent une assiette en argent, tu sais. Mais c'est le trophée, tu sais. Mais c'est ça. Ça fait partie. C'est plus des trucs européens, là, je dirais. Mais tu sais, quand même, c'est un peu bizarre de les voir recevoir une assiette. Pour quiconque connaît pas tant le sport ou tu connaît pas les tournois de tennis, tout ça, il fait comme OK, cool. Un beau plateau de service. Hey, ça va être pratique. Puis là, regardez le jeu de mots, plateau de service au tennis, en tout cas. Bref, c'est ça. Fait que c'est un peu rigolo. Si on quitte le sport un peu, Big Brother Célébrité hier soir qui terminait, comme je l'ai dit la semaine passée dans une édition spéciale, j'ai suivi Big Brother, puis je voulais tellement pas, là, je voulais pas me rajouter une série à écouter. Là, tu sais, on écoute tellement de séries, là, du binge-watching que des fois, là, j'ai l'impression de vivre dans cette série-là tellement que tu écoutes des épisodes un après l'autre, puis tu te décroches pas, puis tu as le goût de savoir qu'est-ce qui va se passer, puis tu écoutes le début d'un épisode avant de fermer parce que tu veux savoir ce qui va se passer, puis tout ça. Puis des fois, tu as l'impression carrément des fois, je me réveille la nuit, puis je fais comme OK, je réfléchis à qu'est-ce qui se passe avec les personnages de la série. Fait que ça, c'est comme pas loin de la maladie mentale, mon affaire. Fait que je me suis dit, je m'embarque pas dans d'autres affaires, tu sais, je veux pas m'embarquer dans d'autres affaires. Puis là, Colin, j'ai commencé à l'écouter, puis là, je trouvais ça, là, j'embarquais, puis j'écoutais un autre épisode, puis là, je les écoutais justement le lendemain matin pas mal tout le temps, en déjeunant, tu sais, puis là, j'écoutais les épisodes, puis je trouvais ça bon, puis là, l'espèce de pattern de Big Brother te garde en haleine parce que, bon, à tous les jours, il se passe quelque chose, là, tu sais, il y a le défi du patron, après ça, il y a les activités pour le veto, puis après ça, il y a le veto, puis là, ils vont nommer quelqu'un d'autre, puis après ça, tu arrives au week-end, c'est justement l'élimination, puis là, ça recommence, c'est un cercle vicieux, tu sais. Fait que tu veux pas décrocher, tu veux rester dans l'histoire. Fait que je l'ai écouté du début à la fin. Et ben hier soir, c'était la finale. Et sans grande surprise, la grande surprise vient du fait que c'est Jean-Thomas et François qui étaient en finale parce qu'il restait une possibilité pour Kim Clavel de remporter une épreuve. Puis après ça, ou plutôt que François ou Jean-Thomas remportent l'épreuve, puis ils amènent Kim avec eux autres, ce qui s'est pas passé. Donc ça a été Jean-Thomas contre François Lambert en finale, puis Jean-Thomas l'a emporté par un blanchissage, là, 12-0 dans les votes, ce qui était un petit peu à prévoir, tu sais, en tant que tel, là, parce que Jean-Thomas, je pense que tout le monde l'aimait bien gros dans cette compétition-là. Puis l'autre affaire, c'est que bien que François Lambert, il a écorché quelques personnes, mais en gros, il a été quand même pas pire correct dans cette aventure-là. Il s'est fait des alliés, il s'est fait des amis, puis tout ça. Fait que ça l'a rendu un petit peu plus sympathique aux yeux du public, mais pas assez pour battre Jean-Thomas qui, lui, avait la sympathie de tout le monde. T'sais, les participants, le public, je pense même que si Marie-Mé avait pu voter, elle aurait voté pour Jean-Thomas. Donc, pas une grosse surprise que Jean-Thomas l'emporte. Fait que c'était intéressant. J'ai hâte de voir s'il va y avoir une édition, une deuxième édition à Big Brother Célébrité 2, peut-être, avec d'autres vedettes. Mais comme je l'ai dit, je trouve que l'édition avec Célébrité est meilleure que tout le reste, parce qu'à un moment donné, Ça demeure très, très, très à cheval sur la ligne de l'intimidation puis de la, tu sais, du rejet dans, tu sais, là, on s'entend, là, on est dans une époque où est-ce que on parle beaucoup, beaucoup d'intimidation puis comment contrer l'intimidation puis le rejet pour les jeunes puis tout ça. Alors que, tu sais, Big Brother avec des participants ordinaires, ça dégénère un peu, là. C'est carrément c'est carrément méchant à certains égards puis tout ça. Donc, en ayant des célébrités, oui, il se passe des trucs dans le dos des gens, puis bon, il y a du blabla, puis il y a de la stratégie pour évincer, pour mettre à part des gens, puis tout ça. Sauf que c'est avec des célébrités, ça demeure dans le politically correct la plupart du temps, parce que justement, ces célébrités-là ont des carrières, sont connues à l'extérieur de cette maison-là, ce qui fait que ça demeure un peu plus humain que d'avoir des candidats random qui veulent juste gagner de l'argent, tu sais. Donc oui, les célébrités étaient là, il y en a certains qui voulaient gagner de l'argent, etc. Mais tu sais, en bout de ligne, ça demeurait beaucoup plus humain que d'avoir 14 candidats inconnus qui sont prêts à faire n'importe quoi pour ce montant d'argent-là. Les coups bas, l'espèce de message que ça laisse, puis tout ça, ben ça. Moi, j'aurais moins embarqué. Personnellement, j'aurais moins embarqué à cause de ça. Mais là, avec des célébrités, je dois dire que je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun aussi de voir les personnalités, tu sais, des célébrités. Tu sais, des fois, on n'imagine pas qu'un tel pense de cette manière-là ou est prêt à faire telle chose ou peut s'allier avec telle personne. Fait que ça le concept est super intéressant, puis c'est vraiment cool de ce côté-là. Côté lutte, j'en ai parlé la semaine passée, j'allais suivre ces trois affaires-là, le Masters, Big Brother, puis la lutte. On a eu droit à WrestleMania devant public, ma foi du bon Dieu. Il y avait du monde là, pas de masque. Ça me fait capoter pour vrai. Ça me fait capoter de voir que au Québec, on va être obligé de porter un masque dehors, tu sais. Même en respectant la distanciation sociale. Puis aux États-Unis, notamment en Floride et au Texas, surtout au Texas, je sais pas c'est quoi les mesures là-bas, je me suis pas informé, je sais pas c'est qu'est-ce qu'ils doivent respecter, mais bon, en regardant WrestleMania, la lutte, là, c'était dans le stade des Buccaneers de Tampa Bay, le Raymond James. Stade ouvert, c'est sûr, grandiose. Ils ont fait vraiment un bel événement puis tout ça. J'ai pas tout regardé là. Il va falloir que je fasse un petit retour puis regarder la rediffusion là, que j'ai enregistrée puis tout ça. Mais ça m'a fait capoter de voir tout ce monde-là réuni au même endroit, alors que bon, justement, juste un peu plus au nord chez nous. C'est restriction par-dessus restriction. Je sais pas si eux autres ont tous été vaccinés aux States. Je sais pas c'est quoi leur situation. Je crois que, bon, ils ont une facilité d'avoir des vaccins plus que nous. Possiblement que les gens vaccinés ont une certaine liberté là-bas. Je sais pas comment ça fonctionne, mais j'ai comme eu un petit malaise. Vraiment un petit malaise. Et là où j'ai eu le plus gros malaise, c'est de voir des lutteurs canadiens qui connaissent un peu la réalité au Canada, tout ça, faire partie de tout ça, tu sais. Puis oui, ils habitent aux États-Unis, c'est des Américains maintenant, pour la plupart, sauf peut-être les Québécois, là, tu sais, qui ont un petit peu plus d'attache, justement, à leur place, puis tout ça. Mais tu sais, un gars comme Edge, son vrai nom est Adam Copeland, c'est un gars de Toronto, qui habite aux États-Unis, je pense, dans le coin du New Jersey, quelque chose comme ça, là. Mais tu sais, c'est devenu un Américain. Mais tu sais, j'ai quand même ce petit malaise-là de voir tout, t'sais, un paquet de Canadiens, l'autre côté, être tout souriant, tout de bonne humeur versus ce regroupement-là, alors qu'ils doivent connaître quand même la réalité qu'on a au Québec, au Canada en ce moment. J'avais comme un petit pincement au cœur de voir tout ça. Mais bon, ceci dit, tout ça mis de côté, c'est sûr que c'était le premier show devant public, justement, là, de la WWE, qui avait fait pas mal leur part de ce côté-là, parce qu'ils avaient cessé de faire d'être en tournée un petit peu partout. Ça fait depuis un an qu'ils sont au même endroit pour présenter leur show puis tout ça. Ils ont dû présenter des spectacles moins grandioses à cause de tout ça. Donc là, c'était un petit peu leur retour, si on veut, devant public. Et je doute vraiment fort qu'ils vont le refaire de toute façon à toutes les semaines, là, pour l'instant. Mais quand même, tu sais, c'était bizarre de voir ça. Bon show, je vais le regarder, je vais sûrement vous en reparler cette semaine, mais c'est ça, c'était mon petit éditorial de ce matin. Donc, voilà pour ce matin. L'autre chose que j'allais discuter, ben, c'est mon podcast de jeudi. Donc, jeudi prochain, jeudi cette semaine, le 15 avril, je fais un spécial sur le hockey. Donc, j'ai bien hâte de faire ça avec mes invités. J'ai déjà parlé que Jean-François Barry allait être avec moi. Ça reste, je vais confirmer demain les autres invités. Donc, je vais faire un post sur Facebook et peut-être un petit vidéo là, pour annoncer qui va être avec moi. Donc, j'ai bien hâte de jaser de hockey. On va parler de la Ligue nationale. La course aux séries est bel et bien entamée. La date limite des transactions, c'est aujourd'hui. Donc, on surveille ça. Il y a eu quelques transactions hier qui se sont faites dans la Ligue nationale, justement, dont le Canadien qui est allé chercher le défenseur des Red Wings de Détroit, John Merrill. Le grand Québécois, David Savard, qui se retrouve avec le Lightning de Tampa Bay. Donc, bonne chance à lui pour remporter une première Coupe Stanley. Lui qui a passé sa carrière avec les Blue Jackets de Columbus et Super John Tortorella pour quelques années déjà. Donc, il mérite d'aller avoir du bon temps en Floride, on va dire ça comme ça. Et Taylor Hall qui est passé aux Bruins de Boston. Taylor Hall qui poursuit sa mission de faire toutes les équipes dans la Ligue nationale, j'ai l'impression. Il se fait haïr d'une équipe à l'autre et je pense qu'il est en bonne voie de réussir son plan. Voilà pour Taylor Hall. Mais c'est ça, on surveille un peu les transactions. On va en parler jeudi. Ben hâte de faire ce show-là. Mais on va aussi parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec parce qu'eux aussi vont entamer les séries prochainement au mois d'avril. Ils ont comme pris une pause là, entre la saison régulière puis les séries, ce qui est bon parce que ils doivent s'assurer que ça fonctionne bien. Beaucoup de matchs ont été disputés dans les bulles dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec cette année. Donc, faut voir comment ça va se passer maintenant pour les séries. Mais ça va être intéressant. J'ai hâte de voir les Olympiques de Gatineau, bien sûr, qu'on va suivre. Je vais suivre aussi les Voltigeurs de Drummondville avec Xavier Simoneau, un petit gars de ma région, un bon kid, capitaine des Voltigeurs. Donc, on va suivre un petit peu ça aussi. Et on va suivre les grosses équipes comme les Foreurs de Val-d'Or. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Ils vont affronter... je pense que j'ai vu Michael Lancette dire qu'il y avait genre 44 points qui séparaient les Foreurs à leurs adversaires en série. ça risque d'être un blowout. On va voir ce qui va se passer, mais ça risque d'être assez inégal comme série. Donc, je pense qu'on va discuter aussi un petit peu d'hockey junior pendant cet épisode-là. Fait que ça risque d'être bien intéressant. Donc, jeudi prochain, le 15 avril, jeudi qui s'en vient, 19h, toujours disponible sur Facebook, YouTube et Twitch. Donc, j'espère que vous allez être là. Puis, ben, j'en profite pour vous dire de passer une excellente journée aujourd'hui. Il va faire beau. Je sais que c'est lundi. Les lundis, habituellement, on a juste hâte que ça passe en coup de vent. Mais profitez, regardez dehors, le beau soleil. Ça me donne de la vibe. Là. Quand il fait beau, là, ça me donne de l'énergie pour faire ma journée. Donc, faites comme moi, regardez dehors, levez les yeux, puis voyez comment c'est beau soleil, belle journée. Profitez-en. All right, on se reparle demain. Ciao!